L'Afrique dans tous ses états. Une émission réalisée et produite par Radio FM+.
Eh bien, bonjour à tous. Alors, merci encore à la Radio FM+ de nous accueillir et de nous permettre ces petites ouvertures, ces petites lucarnes sur le continent africain, qui est un continent qui nous est cher et qui est quand même, je pense, assez proche dans la ville de Montpellier. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Yare Diagne et Élise Simonetti, qui font partie et qui sont membres très actifs, je crois, ils nous l'expliqueront, du collectif DIME pour la mémoire de l'esclavage à Montpellier. Donc vous doutez pourquoi nous les recevons, puisque le DIME n'est pas loin et qu'ils nous expliqueront un petit peu cette année à quoi ils convient, ils invitent le public. Voilà, donc bonjour à tous les deux. Bonjour, d'abord je commence par la dame. Bonjour Élise.
Bonjour.
Bonjour Élise, pardon. Et bonjour Yare.
Bonjour.
Alors je vais vous demander à chacun de vous présenter et, et de nous expliquer un petit peu. Peut-être on commencera par un bref rappel historique parce que le collectif DIME pour la mémoire de l'esclavage à Montpellier n'est pas tout neuf, tout récent. Je le connais depuis très longtemps personnellement. Voilà, donc peut-être Élise, on commence par Lise, pardon. On commence par Lise. Allez.
Allez.
Bonjour Lise.
Bonjour, moi je suis au collectif DIME depuis 2009.
Oh, c'est vieux ça.
C'est vieux, ouais. Je participe à ce collectif parce que c'est en fait les rencontres que j'ai faites au fil des années qui m'ont permis de mieux comprendre l'enjeu que représente l'esclavage, la traite négrière et ses abolitions. Et qui m'a permis aussi de changer mon regard sur mon continent, sur le continent européen, sur la manière dont il a agi et dont il s'est formé. Mmh. Et pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas du tout inscrit dans le passé. Mmh. C'est vraiment quelque chose qui façonne le présent, que ce soit en France, que ce soit en Afrique, que ce soit dans les Dom-Tom, et qui aussi a largement contribué au type d'économie qu'on a aujourd'hui, aux mouvements géopolitiques qui sont en œuvre aujourd'hui, qui sont à l'œuvre aujourd'hui. Et vraiment, ça a été pour moi une source de compréhension énorme et une source de prise de conscience énorme. Donc pour moi, ça, c'est quelque chose qui est important. Et voilà.
D'accord. Et donc, ta position, ta fonction, ta
rôle? Alors, moi, je suis trésorière en ce moment.
Trésorière, d'accord.
Voilà.
Courageuse.
Oui. Et puis, ce qui est bien dans le collectif, c'est qu'en fait, pour tout ce qui est de la programmation, d'invitation, de conférenciers, on est vraiment tous à l'œuvre et toutes les méninges fonctionnent de concert. Et c'est ça qui est très riche dans le travail qu'on fait chaque année. Et c'est ça qui est enrichissant sur le plan personnel. Et voilà.
Donc. D'accord. Donc, Yare Diagne, bonjour. Bonne arrivée, comme on dit, au pays des hommes intègres. Je vais te demander de te présenter avec ta fonction aussi. Parce que les auditeurs, tout le monde ne te connaît pas.
Je m'en doute. Merci à Marie-Claude de nous avoir reçus. Oui, je m'appelle Yare Diagne. Je suis président du collectif depuis 2014.
Oui.
Et le collectif, comme tu l'as rappelé, est une association. Au départ, c'était le comité du 10 mai, donc en 2006. Qui était en fait un rassemblement de bonne volonté, que ce soit dans le milieu associatif ou à titre individuel, et qui ont organisé les premières commémorations des abolitions de l'esclavage depuis que les commémorations ont commencé en France. Mmh. Et ça fait maintenant presque 18 ans que nous existons alors, donc nous nous sommes formalisés, on va dire, en 2014 à travers une association. Mmh. Et notre travail est l'organisation des événements commémoratifs liés à l'abolition de l'esclavage et des traites qui a été mise en place depuis l'époque de Jacques Chirac suite à la loi Taubira de 2001.
Mmh. D'accord. Donc, effectivement, je témoigne que cette commémoration est plus ancienne même que la naissance de votre collectif qui s'est formalisé, je dirais, et qu'à l'époque, en effet, il y avait, pour y avoir moi-même participé, il y avait quand même des défilés qui s'organisaient, même si c'était un peu spontané, si c'était quand même des sensibilités, des associations différentes, il y avait déjà cette sensibilité qui existait, et c'est vrai que le fait d'avoir formalisé ça, de l'avoir inscrit vraiment dans le fonctionnement officiel de la ville de Montpellier, je pense que c'était une très très bonne chose.
Tout à fait, effectivement, parce que disons que comme c'est un événement de portée nationale, les communes, il y a beaucoup de communes en France qui effectivement participent à la bonne réussite de ces événements. Si on prend en vue de quelques villes comme Grenoble, je pense qu'il y a quelques années, ils ont fait un mois de commémoration.
Tout à fait.
Et à Montpellier, bon, voilà, nous n'avons pas à rougir de quoi que ce soit. Nous avons des événements qui se sont succédés au fil des années. On a gardé le même principe que tu évoquais tout à l'heure par rapport à la marche du souvenir, à une conférence, une exposition où il y a quelquefois une table ronde et voilà un espace d'échange en tout cas assez important. Et c'est vrai que la ville, en fait, en tout cas, et le département, à un moment, nous ont accompagnés pendant longtemps. Je me rappelle qu'on nous mettait une scène dès le départ sur la place de la Comédie. Et après, la scène s'est déplacée, on tend un peu vers la place Albert Ier, où on avait une scène aussi avant d'entamer la marche. Donc, effectivement, les collectivités locales, en tout cas la ville, a toujours accompagné donc, notre association dans l'élaboration et la mise en place des événements commémoratifs au bénéfice de tous les Montpelliérains.
Oui, et donc comme disait tout à l'heure très justement Lise, c'est l'importance de ces mémoires, hein, de ces commémorations, de ces mémoires, en particulier, bon, qui explique, alors c'est une phrase qui me vient comme ça, je ne sais plus si c'est Jung ou c'est pas Jung, qui disait « Ceux qui ne comprennent pas leur passé sont condamnés à le revivre oui. », c'est-à-dire qu'on voit bien actuellement, là il va y avoir une commémoration du génocide du Rwanda. Là, hier ou avant-hier, c'était les Arméniens. Enfin, on voit bien quand même la portée de ces événements et de ces mémoires et de ces commémorations qui ne peuvent justement que... Et c'est touchant d'ailleurs qu'Élise explique bien comment peu à peu elle s'est sentie concernée. Et c'est bien qu'il y ait cette transmission pour la jeunesse, pour une meilleure compréhension des choses, parce que sinon on voit bien que quand on est sans mémoire et quand on est qu'avec du visuel qui t'arrive comme ça par l'extérieur, c'est vraiment... voilà, oui, Lise, elle voulait dire
oui,
quelque chose.
Oui, moi je voulais dire qu'il y a aussi, pas seulement les conséquences, on va dire, à l'échelle nationale ou internationale, il y a aussi des conséquences à l'échelle individuelle.
Tout à fait.
Et ça, c'est vrai que nous, au collectif, on aimerait transmettre cette histoire, transmettre ces événements, et aider les jeunes à s'y pencher parce que ça façonne aussi au niveau psychologique et au niveau social. Et du coup, parce que les conséquences, et d'ailleurs il y a un rapport de l'UNESCO qui a été édité il y a quelques années sur les conséquences psychologiques et sociales de l'esclavage et de la traite, je pense que les jeunes aujourd'hui, qu'ils soient afro-descendants, africains, européens, ne se rendent pas compte à quel point ils sont le résultat de cette histoire, en fait.
Tout à fait.
Autant les Européens que les Africains ou les Afro-descendants.
Alors moi j'ai envie d'aller même beaucoup plus loin, même si peut-être c'est trop loin, c'est que, bon, de toute façon l'esclavage ça a toujours existé, on le sait, c'était très archaïque, très ancien, etc. Là on parle quand même d'un événement qui a été quand même terrible, puisqu'on parle de la traite négrière de cette période-là, et que moi j'ai envie de dire aussi, si on regarde bien le tréfonds de l'histoire, on peut parler racisme, on peut parler effectivement, ce qui fait peut-être encore quand même, il y a des pays encore où on a des esclaves qui sont des fois de minorités, etc. Si on étudie le fond, on voit bien aussi que l'enjeu était économique, c'est-à-dire qu'on avait des arguments, entre autres justement pour diminuer les gens et tout, avec des comportements horribles et inhumains, mais en attendant attendant, c'est l'enjeu économique. Et alors, on est en train de... Moi, ça me renvoie à notre époque où tout ce qui se passe actuellement nous renvoie à l'économie. Hein. On va parler de la Palestine, de tout ce qui se passe. Bon, voilà. Donc, pour revenir à cette période-là et que votre collectif, il a de quoi faire encore beaucoup.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, pour passer de ce que disait Lise à ce que tu dis, Marie-Claude, c'est-à-dire que il y a une phrase qui résume bien les choses. L'histoire de l'esclavage, c'est l'histoire la plus universellement partagée.
Tout à fait.
Elle a touché tout le monde. Donc ça, c'est déjà dedans. Voilà. Après, effectivement, quand je t'entends parler effectivement de la base économique, Lise l'a souligné au départ dans son mot introductif, il faut savoir que c'était un commerce.
Tout à fait, c'est ça.
Et un commerce, quand on dit commerce, il y a des registres, il y a des bilans, il y a des assurances, il y a des prêteurs. Et il y a tout un système qui est établi, en fait, quelque part. Et il faut savoir que, en fait, le monde dans lequel on vit aujourd'hui, qui est un monde plus ou moins, entre guillemets, capitaliste, comme on dit, donc une base monopoliste, donc d'accumulation du capital. Mais en fait, c'est une phase qui est en fait la transition entre la phase d'avant, qui est une phase mercantiliste, où l'esclavage a eu toute sa place, effectivement. Voilà, il y a des grandes familles, des grandes communautés qui se sont enrichies avec cela. Ils ont stocké beaucoup d'argent. Donc, en fait, la phase, en fait, l'esclavage, on peut dire, est la base qui a dû amener le monde vers un monde capitaliste et monopoliste, quelque part. Et donc, oui, nous vivons carrément sur les conséquences directes ou indirectes de cette phase d'histoire qui a dominé le monde pendant plus de 4 siècles, quand même, il faut le dire. Ce n'est pas une histoire de 15 jours, ou de 2 mois, ou de 2 ans, ou de 15 ans. C'est quand même, voilà, il y a plusieurs générations qui ont vécu cela. Et les différences économiques, sociales, sociopolitiques sont énormes. Je pense que de notre vécu, quel que soit le nombre de commémorations que nous ferons, nous n'écumerons que la face émergée de l'iceberg de l'histoire de l'esclavage. Ça, c'est très clair. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus.
Oui, tout à fait. Et justement, jusqu'à dire que même, du coup, dans ces périodes-là, 18e, 19e siècle, il y avait même des grands intellectuels qui justifiaient le fait que la race noire aurait été une race inférieure. Quelque chose qui m'avait touchée, j'étais adolescente, la controverse de Valladolid, par exemple. Parce que tout à coup, j'avais compris, parce que je ne savais pas trop, et j'avais compris l'enjeu quand à la fin, on voit ce noir qui balaye la salle du concile, etc. Vraiment, c'est incroyable, quoi. Incroyable. Et comment ces histoires de mercantilisme, elles influencent nos grands penseurs, les grandes idées. C'est incroyable.
Mais tout à fait. Incroyable. Le controverse de Valladolid s'est passé de 500 à 551. Donc, de 550 à 551. Ouais. Donc, c'est déjà bien l'histoire de c'est bien loin de ce qu'on appelle les siècles des Lumières. Mais justement, tu veux bien poser la question, parce qu'on se demande bien de quelle lumière est-ce qu'il s'agit.
Tout à fait.
Parce que on peut les citer, les Jules Ferry, Montesquieu, Kant, et tout ça, ils ont versé quand même dans l'ignominie la plus complète pour justifier effectivement que le profit, il était là et que ça les arrangeait bien. Et donc, ils ont, en fait, si on veut bien, préparé les mentalités pour pouvoir accepter l'inacceptable. Et c'est sans cela, effectivement, qu'ils peuvent être condamnables, entre guillemets. Et c'est vrai que on ne dit pas assez, mais il y a beaucoup de gens dans cette période-là aussi, dans ces périodes, ou plus récemment, qui ont... malgré leur courage, en fait, dénoncer l'ensemble de ces faits inhumains, mais ils ont été passés sous silence.
Absolument.
Mais complètement. On va commencer par le comte de Volney, avec ses voyages et ses écrits. On peut parler de Condorcet, qui a dénoncé l'esclavage très tôt. On peut parler de l'abbé Grégoire. On peut parler de Lamartine. Donc voilà, on peut parler aussi de l'Almamie, des Almamies qui ont été au Sénégal, et qui ont quand même marqué du temps de leur existence leur mécontentement et en tout cas leur désapprobation par rapport à ces pratiques. Mais La politique de l'argent roi a toujours primé sur les choses, et ceux qui ont écrit l'histoire ont plutôt écrit ceux qui ont transformé l'histoire que ceux qui ont décrié effectivement ces phases qui étaient inhumaines.
Tout à fait. C'est vrai que c'est bien de rappeler aussi que malheureusement, comme dans tous les événements qui se passent partout, il y a toujours des gens qui ne sont pas d'accord. Il y a des humanistes, il y a des gens intègres. Et malheureusement, cela, toujours, y passe. Et c'est toujours au profit du profit.
Absolument.
Oui,
Lise. Oui, moi, je voulais rajouter que... moi, j'ai envie de regarder aussi parfois ce phénomène sur le plan individuel. Quand on voit qu'il faut, on connaît maintenant l'épigénétique, c'est-à-dire la transformation de notre patrimoine génétique avec les conditions de vie. On peut imaginer 4 siècles où on a conditionné une partie de la population à être inférieure et conditionné l'autre partie de la population à considérer les autres comme inférieurs. Et ça, c'est un réel traumatisme des deux côtés. C'est un réel traumatisme, c'est un trauma profond à long terme, 400 ans, qui a modifié nos consciences. Et ça, on en a... C'est quelque chose dont on ne parle pas assez. Et ensuite, il y a une deuxième chose que je voulais dire, c'est comme vous le soulignez, c'est vraiment un modus operandi qui se répète pour d'autres sujets en permanence. Et en fait, regarder comment un fait passé comme l'esclavage, passé entre guillemets, hein, ça nous permet de aussi pouvoir décrypter ce qui se passe en ce moment et de garder un esprit critique, de garder une conscience humaniste et de décrypter l'actualité avec des armes aussi. Et ça, c'est hyper important, notamment pour la jeunesse. On ne va pas regarder un fait passé, on va le décrypter et ça va nous permettre, ça va nous aider à regarder ce qui se passe actuellement avec un œil critique et à se poser des questions. Voilà.
Tout à fait. Alors moi qui suis psy, je dirais que tu parles d'épigénétique et moi je dirais aussi l'inconscient collectif.
Oui.
Parce que l'inconscient ça existe et puis les psys maintenant c'est bien, il y a l'inconscient familial. On voit bien qu'il y a des répétitions d'histoires à des générations, etc. Et qu'en effet, éduquer la jeunesse qui a encore grandi là-dedans, des deux côtés. Parce qu'il y a du boulot à faire, Yaret, tu es d'accord avec moi. Il y a du boulot à faire. Bon, moi que je connais quand même un peu l'Afrique de l'Ouest, surtout le Burkina. Il y a quand même aussi à faire dans les mentalités. C'est vrai que ces prises de conscience-là, c'est vraiment unique. Et c'est en ça que Mme Taubira a été géniale. Parce que tu l'as citée tout à l'heure, Yaret, elle a été géniale, cette dame. Vraiment. Et puis elle s'est battue, elle aussi. C'est une combattante. Et c'est une femme.
Oui.
Elle lise.
On va dire c'est une femme. Tout à fait.
Excuse-nous, Yaret.
Je pourrais vous en citer d'autres femmes.
Et en fait, il y a autre chose aussi. Par exemple, si on regarde comment se tissent les liens familiaux en Outre-mer. Et là, je m'interroge, il faudrait faire des études là-dessus, mais quand on voit comment la famille s'est disloquée, comment les femmes ont des enfants avec plusieurs pères différents, et etc., on peut se poser la question, est-ce que ça n'est pas aussi la conséquence de ces mariages qui étaient disloqués, parce qu'on pouvait vendre à l'époque une femme qui était mariée avec un autre dans une autre plantation, les enfants ne leur appartenaient pas, et ça a duré pendant 4 siècles. On peut se poser la question, quelle est la conséquence dans la cellule familiale actuelle, dans les difficultés familiales actuelles, dans les difficultés sociales actuelles. On peut aller jusque-là. Et ça, on s'y interroge. Il faut s'y interroger. Il faut que les gens qui le vivent et que les gens qui les entourent s'interrogent.
Moi, j'ai envie d'aller plus loin. C'est que, notamment à l'époque, j'avais lu un livre extraordinaire d'une mauricienne qui s'appelle Marie-Thérèse Humbert, qui avait écrit un livre qui s'appelle « À l'autre bout de moi ». Alors, c'est l'histoire de deux sœurs, alors avec ce qui est aussi de la sororité, du fait qu'on peut être et ennemis et amis. Mais c'était le drame de ces jeunes filles dont elle parle. Alors, je ne sais pas si c'est autobiographique. C'était qu'elles étaient blanches, avec du sang noir. et que du coup, elles, alors je crois que ça a évolué depuis, mais que du coup, elles étaient plus ou moins rejetées de chaque côté, parce qu'elles avaient du sang noir, mais elles n'étaient pas noires, et elles n'étaient pas blanches puisqu'elles avaient du sang noir. Et ça m'avait frappé énormément. Et là, on rejoint ce qu'on vient de dire, hein, quand même, cette imprégnation au cours des siècles, vraiment, de la différence et de voilà, et comment à un moment on fait de l'ostracisme parce que inconsciemment on y est mené, on y est guidé, quoi.
Bien sûr. Et ça nous rejoint au livre de couleurs aussi.
Oui, oui.
En plus, voilà, exactement.
Un pont par rapport
oui,
à...
Oui, en fait, mais c'est-à-dire qu'il y a... Je l'ai fait historique. Et il faut noter que quand même, on l'a dit tout à l'heure, c'est une page d'histoire la plus universellement partagée, on l'a dit tout à l'heure. Il faut savoir que, je vais utiliser un terme plus au néologisme, la négrification de l'esclavage n'est pas venue ex nihilo. Non. Ça découle de faits historiques précis et réels.
Absolument.
C'est-à-dire que... au lendemain de la défaite du monde chrétien face au monde musulman à Constantinople en 1453, le flot d'esclaves slaves, parce qu'à l'origine, les esclaves, c'était les slaves, voilà, il faut le préciser, a été interrompu. Dans la même période, les Portugais arrivaient sur les côtes africaines et faisaient la promotion, justement, des esclaves noirs, effectivement, qu'ils amenaient à Lisbonne d'abord, avant la conquête du Nouveau Monde. C'est-à-dire que, donc, en fait, c'est un phénomène qui est venu s'ajouter par rapport à l'histoire de la traite humaine de manière globale. Et c'est par la durabilité de l'exploitation des populations noires que les consciences... collectifs du monde entier se sont réunis volontairement ou involontairement pour désigner le noir comme étant inférieur parce qu'ils n'ont connu que le noir étant esclave en fait.
Tout à fait.
Parce que le blanc étant esclave est passé aux oubliettes en fait.
Oui.
Ouais.
Oui.
Et donc ça c'est la première chose. Après effectivement tu as lu dans mes pensées, c'est-à-dire que vous l'avez dit tout à l'heure toutes les deux, c'est-à-dire que cette histoire qui repose sur le phénotype n'était pas une histoire tout simplement entre les Blancs et les Noirs finalement du temps de la traite négrière. Il y avait d'autres couches sociales qui existaient et qui ont eu un rôle prépondérant dans l'histoire de l'esclavage. Parlons déjà des marrons, les nègres marrons. C'est-à-dire que les Noirs, déportés dans les territoires donc nouvellement connus vers le Brésil, Honduras, voilà, tout ce qui est l'outre-mer, et qui avaient refusé leur statut d'esclave, et qui ont migré sur des régions inaccessibles, autant soit peu, pour former de grandes communautés. Et ces grandes communautés ont lutté farouchement contre cette ignominie existante, qui existait effectivement un peu partout dans le monde. À côté de cela, il y a aussi d'autres communautés qui ont eu un rôle fondamental dans l'évolution des choses. C'est ce qu'on appelle les libres de couleur. Et d'ailleurs, c'est le thème de la commémoration des abolitions de l'esclavage à Montpellier cette année, nous allons focaliser sur les libres de couleur. Beaucoup ne savent pas ce que c'est, parce que ça peut être un agencement de mots, les libres de couleur, mais de quoi ils parlent. Mais c'est d'une richesse, mais abyssale. Ce sont des gens, comme tu le disais tout à l'heure, qui sont issus des blancs et noirs, donc des métis, mais qui n'appartiennent ni aux uns, et ni aux autres, et qui, au final, vont choisir, pour la plus grande part d'eux, de choisir, en fait, d'éradiquer cette forme d'oppression qui est mise sur une partie de leur patrimoine génétique, quelque part. Et ça, c'est très intéressant. Et il y a des trajectoires différentes, des trajectoires très intéressantes sur les libres de couleur. Et ce sera l'occasion, effectivement, de s'y plonger lors de la commémoration de cette année, à travers justement cette conférence qui sera animée par M. Lawrence Hadge, qui est maître de conférence à l'Université Paul Valéry. Il est spécialiste quand même des livres de couleur du côté des États-Unis. Mais nous allons procéder, en fait, il va nous faire cet exposé. Et nous allons essayer de procéder à une forme de lecture comparée entre les livres de couleur, par exemple, en Martinique, et ceux qui ils ont joué aussi un rôle important. Et voilà, et ce qui s'est passé aux États-Unis, et ainsi de suite.
D'accord, donc ça sera quel jour, ça ?
La conférence aura lieu le samedi 11 mai à 17h à la Maison des Relations Internationales.
Bon, d'accord, la MRI.
Ouais.
D'accord. Alors, moi, je pense qu'on en arrive à un point, c'est... Merci, Yari, me permet de... Je crois qu'on va, essayer de bien faire, dérouler le programme que vous avez, parce que je pense que vous avez un programme quand même bien... Lise nous l'a fait comprendre tout à l'heure, hein. Il y a une belle concertation, il y a une belle structuration, donc les choses, voilà. Alors, j'aimerais bien que vous nous expliquiez, que les gens aient le temps de bien entendre et bien noter les jours et les horaires, voilà, à partir du 10, donc, hein, c'est ça. Voilà, alors, je ne sais pas si c'est Yaré.
Alors, donc, la commémoration va commencer d'abord par notre présence à la cérémonie institutionnelle à la mairie de Montpellier, qui sera à 10h, à 11h, pardon, matin, oui. à la mairie.
Oui, c'est mieux 11h quand même, ouais. On a plus de chances que les gens soient là.
Voilà.
Donc le 10, hein, c'est ça.
Ça, c'est le 10, au matin, à 11h. Ensuite... cette année, du fait des travaux, on ne peut pas faire de marche du souvenir parce que le parcours est complètement altéré.
C'est vrai que c'est altéré, vraiment.
Voilà. Donc on a décidé en collectif de faire un rassemblement qui aura lieu à la Maison des Relations Internationales de Montpellier.
D'accord. Donc ça fait une marche à peu près là dans le secteur
en fait,
plutonier.
En fait, on ne fait pas de marche, oui, on fait, se rassemble dans la Maison des Relations Internationales. Et là, il y aura des lectures de textes en lien avec l'esclavage, l'histoire de la traite négrière et des abolitions. Il y aura aussi des événements artistiques avec des danses qui sont issues de cette culture. Et là aussi, ça a énormément influencé le milieu artistique et la production artistique. Il y aura des concerts et ça sera aussi le moyen pour nous de présenter le collectif, de promouvoir nos valeurs et que les gens aussi puissent s'y intéresser et pourquoi pas venir prêter main forte.
Ça sera le 10.
Le
10, mais à quelle heure?
Ça aura lieu de 17h à 19h30, 20h.
À la Maison des Relations Internationales.
Voilà, qui nous accueille très aimablement.
D'accord. Oui.
Voilà.
Okay.
Et la conférence aura lieu le 11 mai, comme on l'a dit tout à l'heure, à la Maison des Relations Internationales de 17h jusqu'à 19h. Voilà, sur le thème des livres de couleur, avec bien sûr un échange avec le public qui suivra la conférence, parce que là aussi c'est toujours très riche.
Oui.
Et ça permet aux conférenciers d'approfondir certains points qu'il a évoqués plus en amont. Et on fait aussi, comme chaque année, une soirée qui se passera au Jungle le samedi soir. Qui nous permet à nous d'échanger avec un autre type de public, avec un public parfois un petit peu plus jeune.
Plus jeune, oui.
Voilà, donc on aura un stand de présentation du collectif, avec peut-être des vidéos sur le collectif, l'accès au site internet aussi, qui est très riche. Bon, c'est toujours difficile de le maintenir à jour. C'est un gros travail, mais on essaye tant bien que mal. Et voilà, et donc ça sera une soirée dansante, mais avec un DJ sur le thème quand même de la culture africaine, afro-descendante.
Dansante, voilà. Avec possibilité d'échange.
D'échange, voilà. On sera présent, on présentera le collectif et on présentera
Le Jungle, on peut rappeler où c'est?
Pour 129 avenue de Palavas.
Avenue de Palavas, voilà. On y va en tram, c'est Garcia Lorca, non?
Oui. Garcia Lorca.
L'arrêt du tram Garcia Lorca.
Oui.
Le plus proche, hein, c'est
exactement.
Ça.
Exactement.
Voilà.
D'accord. Et ça, donc, c'est à partir de quelle heure, là,
Jungle? De 19, 20 heures.
Voilà.
20 heures.
D'accord.
Voilà.
Jusqu'à l'aube?
1h du matin.
Voilà.
Jusqu'à 1h du matin, bon, ça va. C'est bien pour le jeune public aussi.
Voilà, ça laissera le temps de...
Et donc, si les gens veulent vous contacter, veulent encore avoir des renseignements, etc., ils peuvent le faire où et quand et comment.
Voilà. Alors, si les gens veulent nous contacter, nous avons une adresse mail
oui.
qui s'appelle esclavage.mémoire.montpellier.
esclavage.mémoire.montpellier, bon, c'est pas difficile.
@gmail.com.
Voilà, d'accord.
Voilà,
ça, c'est classique.
C'est le mail, c'est le plus efficace. Mmh. Nous avons notre page Facebook.
Oui.
Collectif 10 mai. Esclavage et mémoire. Nous avons le site où il y a l'ensemble des coordonnées qui ont été. Bon, si on va sur la page du Facebook du collectif, on aura le site de www du site. Voilà, il est assez long, donc on va pas le citer là. Mais voilà, toutes les informations y sont. Et sinon, voilà, nous sommes connus quand même sur Montpellier. Les gens peuvent nous interpeller. Voilà,
d'accord, c'est vrai que vous êtes un peu connus aussi. Ouais.
Et je précise aussi que sur Google, il suffit de taper collectif 10 mai pour la mémoire de l'esclavage Montpellier.
Oui.
Et il y a le site qui apparaît.
Oui,
c'est peut-être plus simple pour les gens qui n'ont pas Facebook.
Oui,
et c'est un site très riche, avec des rappels historiques, avec des rappels sur la programmation antérieure, sur nos programmations antérieures. Et on peut nous contacter aussi par ce biais.
D'accord, alors écoutez, merci beaucoup Yaré et Lise pour tout ça. Je pense qu'on n'en restera pas là, on risque de vous faire revenir dans quelques temps. Merci à la technique Manon, Adrien, Stéphane, et Manon qui est particulièrement aux manettes, là elle s'est bien activée, donc c'est bien pour les femmes, là, vive les femmes. Merci à FM+, de nous accueillir et de nous permettre d'ouvrir toutes ces petites fenêtres et sur l'histoire comme vous avez pu l'entendre. Et à la semaine prochaine. Et merci à tous et bonne fin de journée à tout le monde et merci à vous deux.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.